Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Ce samedi, cela fait 6 ans, jour pour jour, que Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de RFI au Mali, ont été assassinés à Kidal. Ce jour est maintenant la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Aussi, j'ai choisi cette semaine de parler de la sécurité des journalistes qui partent en reportage en zone dangereuse. J'accueillerai tout à l'heure Sami Boukhelifa, qui couvre notamment la Syrie et l'Irak pour RFI. Mais tout de suite, on va écouter le photojournaliste italien Lorenzo Tugnoli. Il couvre le Moyen-Orient, la Libye ou encore l'Afghanistan, principalement pour le Washington Post. Je l'ai rencontré début septembre au festival Visa pour l'image. Il exposait une série de photos sur le Yémen, pays où une guerre civile fait rage depuis 5 ans.
Atelier@rfi.fr.
Au Yémen, il y a des régions contrôlées par Al-Qaïda, d'autres par des milices qui peuvent ne pas être très sympas avec les étrangers. On ne peut pas traverser ces zones. Je pense qu'il faut très bien se préparer, bien se renseigner sur qui vous emmène dans ces endroits et quelle milice est garante de votre sécurité.
Ça veut dire que vous avez toujours un fixeur avec vous ?
Oui, il y a un fixeur, mais aussi un réseau de contacts qui t'aide. Concernant les risques, ce ne sont que des images, des photographies. On ne veut pas mourir pour ça. Je pense que dans les situations qui sont difficiles, dangereuses, il ne faut pas y aller si tu ne le sens pas. Parce que dès que tu ne le sens plus, tu es stressé, ce qui veut dire que tu fais des erreurs. Le Yémen n'est pas le pays le plus dangereux où je suis allé. J'y étais pour couvrir principalement la crise humanitaire. Mais peu importe, même à Mossoul et dans les situations où il y a une vraie guerre ouverte, mon approche est de ne pas être dans des endroits où je ne me sens pas à l'aise. Ce que je fais et ce que je photographie est toujours, d'une certaine manière, quelque chose qui a été proche de moi, au moins physiquement. J'ai couvert l'Afghanistan pendant 5 ans et je vivais là-bas. Et maintenant, je couvre le Moyen-Orient et je vis au Moyen-Orient. Je ne parle pas arabe couramment, mais je me débrouille. Vous savez, de pouvoir simplement dire quelques mots aux gens dans leur langue, ça les fait se sentir plus à l'aise. Une autre chose que j'aime faire souvent est de revenir sur place. Parce que les photographes et les journalistes, on arrive à un endroit, on fait nos interviews, nos photos, puis on part et on ne revient jamais. Je vois souvent que lorsqu'on revient, même quelques jours plus tard, pour suivre ce qui est arrivé à ces gens, il y a souvent une autre réaction de leur part.
Lorenzo Tugnoli insiste sur les rapports humains, sur le terrain, en zone compliquée. C'est aussi un élément fondamental pour Pascal Maître. Ce photographe français parcourt le Sahel depuis une trentaine d'années, principalement pour National Geographic. Je lui ai demandé comment il a assuré ses arrières lors de ses dernières missions au Mali et au Niger.
Je pense que ça se construit. C'est-à-dire que vous construisez des cercles de sécurité par les gens que vous connaissez. Vous faites attention. Je pense, pour moi, le plus délicat, c'était le centre du Mali. Parce que le Niger, je connais vraiment très, très bien. J'avais une escorte quand je suis allé jusqu'à la frontière libyenne. Et j'y suis allé avec des Touaregs que je connais depuis 30 ans, avec qui j'ai couvert. Donc, c'est les gens qui connaissent bien la zone, ça. Évidemment, c'est aussi dangereux, parce que, je pense, un mois après, le chef militaire du Niger, qui contrôle toute cette zone, avec son escorte, a été tué par 14 véhicules qui les ont attaqués dans le même passage. Donc ça reste dangereux. Mais quand même, ça, je pouvais un peu plus maîtriser. Après, il faut faire très attention, c'est-à-dire ne pas dire ce qu'on fait, ne pas rester trop longtemps. Et dans le centre du Mali, j'ai fait très attention, parce que là, vraiment, je ne pouvais pas le faire avec une escorte ni avec des militaires, parce qu'évidemment, les milices ne m'auraient pas donné accès. Je n'aurais pas pu avoir accès. Donc là, j'ai été assez prudent. Je suis allé juste faire... Quand j'avais un rendez-vous, j'allais, le reste du temps, je restais à l'hôtel. Je n'ai pas ce que je fais d'habitude, j'aime bien me balader, tout ça, dans la zone de Mopti que je connais bien. Je suis très peu sorti pour éviter d'être exposé, parce qu'évidemment, dans cette zone-là, qui est quand même... Les islamistes sont à 5-6 km derrière Mopti. Djenné, ils sont à 10 km. Donc, vous êtes quand même
une
cible vraiment importante. Donc après, les gens que vous connaissez, vous faites attention, vous allez faire ce que vous... Et puis vous disparaissez, et il ne faut pas traîner, il faut être prudent.
Avez-vous eu peur parfois ?
Oh là, pas du tout. J'ai été prudent. J'ai bougé quand j'étais à peu près sûr des gens avec qui je le fais. Le plus délicat, c'est quand je suis allé voir les milices Bambara, qui, elles... Alors, j'ai trouvé un jeune gars qui m'avait dit « je peux t'aider » et tout, et je ne le connaissais pas très bien. Je connaissais quelqu'un qui le connaissait très bien, donc ça, c'était une sorte de garantie. Et après, quand on est parti, c'était en dehors de Djéné, à une quinzaine de kilomètres, et... Effectivement, la personne qui m'accompagnait ne savait plus le chemin, ça devenait un peu compliqué. Et là, bon, l'inquiétude, ce n'est pas une peur, hein, mais vous dites, tiens, peut-être que le gars n'est pas fiable et que ça craint un peu, quoi. Et après, une fois que j'étais, j'ai fait mes photos et je m'en vais. Il ne faut pas traîner, quoi.
C'était le photojournaliste Pascal Maître qui nous expliquait combien la situation peut être mouvante sur le terrain et donc compliquée à apprécier pour les journalistes.
Il est minuit à Barouz. Le village est plongé dans l'obscurité. Les tirs, les frappes déchirent la nuit noire. Nous sommes sur une position avancée des FDS. L'unité du commandant Rostom Hasake est postée sur la terrasse d'une maison. 100 mètres nous séparent des lignes ennemies.
Bonjour Sami Bourelifa.
Bonjour l'atelier des médias.
Ce que l'on entend, c'est Voyage au bout du califat. Un reportage qui vous a valu début octobre le premier prix catégorie radio au prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. Être récompensé par ses pairs, c'est précieux, non ?
C'est très précieux. Je suis vraiment très content et très très fier d'avoir obtenu cette récompense, d'abord pour moi, mais aussi pour ma rédaction, pour RFI aussi. S'il fallait encore une fois prouver que le travail de terrain est important, eh bien voilà, en fait, il faut continuer de travailler sur le terrain, aller chercher l'information là où elle est, et ça paye.
Alors j'aimerais qu'on discute ensemble de tout ce que l'on ne voit pas et de tout ce que l'on n'entend pas lorsque vous êtes sur place et que vous êtes sur RFI. En mars 2019, vous étiez à Barouz, en Syrie, aux côtés des forces kurdes soutenues par la coalition internationale. Elles menaient leur ultime bataille contre le groupe État islamique. Comment on prépare une mission comme celle de Barouz ?
Alors, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour préparer de telles missions. La procédure sécuritaire est assez lourde, mais la sécurité n'a pas de prix, donc il faut absolument essayer d'encadrer ce genre de mission. Si on pense à Barouz, par exemple, c'est une mission à laquelle on a commencé à réfléchir dès la fin janvier, alors que je me trouvais là-bas déjà une première fois, mais la situation était moins complexe, disons, que durant les derniers moments de la vie du califat autoproclamé. Donc disons qu'à ce moment-là, en janvier, quand j'y étais, l'opération des forces kurdes n'était pas aussi forte et importante que durant les dernières semaines quand ça s'est joué. Donc la mission a été préparée en amont avec notre directeur sécurité. On a la chance à RFI et France 24, donc au sein du groupe France Média Monde, d'avoir une direction de sécurité depuis fin 2013, début 2014. Et donc on a un accompagnement. Il faut tout encadrer, tout baliser, savoir exactement où on va se rendre avant d'y aller, donc connaître l'itinéraire, connaître les gens avec qui on va travailler, les fixeurs notamment. Les fixeurs, ce sont ces guides entre guillemets locaux qui nous servent à nous autres journalistes sur le terrain. Ils nous guident, c'est un peu notre boussole quelque part sur les terrains dangereux, et nous travaillons avec eux en coordination. Donc il faut préparer tout ça.
Donc vous devez préparer le chemin par lequel vous allez passer, à la direction de RFI, faire ce qu'on appelle un arrimage sécuritaire pour dire qui vous allez rencontrer. Mais après, j'imagine que vu la situation sur le terrain, il faut s'adapter. Donc le contact avec Paris est permanent.
Le contact avec Paris est permanent. En fait, le directeur sécurité de RFI nous suit quasiment 24 heures sur 24 et nous suit aussi en temps réel, parce que nous avons avec nous des outils de communication satellitaire aussi qui lui permettent de nous voir sur une carte. Et il reçoit notre position régulièrement.
Donc vous utilisez une messagerie sécurisée également pour échanger avec votre direction éditoriale et la direction sécuritaire.
Alors il y a non seulement la messagerie cryptée que nous utilisons pour communiquer dans un groupe de sécurité entre guillemets, et il y a aussi la messagerie satellitaire qui nous permet de communiquer là où on est, parce qu'il ne faut pas oublier que nous nous trouvons généralement dans des zones désertiques où les téléphones portables ne captent pas forcément, où il n'y a pas forcément de 3G, de 4G, donc il faut pouvoir rester joignable en permanence et il faut que Paris puisse nous suivre à la trace.
Alors vous avez cet accompagnement, mais c'est vous le premier sur le terrain qui aussi est en mesure déjà de jauger et de juger si c'est dangereux ou pas. Comment est-ce que justement on prend cette décision de se dire il faudrait que j'aille là, c'est éditorialement important, mais en même temps c'est dangereux. Où est-ce qu'on met la barre en fait ?
Eh bien, en fait, chaque situation est différente. Donc on peut pas, c'est vrai, avant de partir en mission, savoir ce que l'on va faire exactement. Chaque situation est différente. La situation, le contexte est fluctuant aussi en permanence entre une mission faite au mois de janvier et une mission faite au mois de février. Le contexte peut avoir radicalement, mais
c'est très mouvant.
Voilà, c'est très très mouvant. Donc c'est à nous, on s'adapte, mais il y a aussi une confiance qui s'instaure entre nous, journalistes et équipe journalistique de RFI sur le terrain, et aussi notre direction de sécurité. Le directeur de la sécurité qui nous accompagne, il n'est pas là pour nous empêcher de travailler, il est là pour veiller à notre sécurité. Et donc nous nous adaptons en fonction des situations, et je pense que le plus important, c'est d'avoir en tête, nous ne sommes pas des têtes brûlées, il faut être très très prudent, aucune information ne vaut la vie d'une personne, la vie humaine prime d'abord et avant tout, et donc nous décidons en fonction de l'importance de l'information, mais aussi en fonction de la sécurité, de notre propre sécurité. Donc si nous jugeons à un moment que c'est une mission, ou en tout cas se rendre sur un endroit donné est suicidaire, eh bien on peut bien sûr y renoncer. C'est moi le premier sur le terrain à prendre la décision.
Le stress doit être permanent, j'imagine. Revenons sur Barouse. Dans votre reportage Prima Bayeux, dont je parlais tout à l'heure, vous expliquez que la nuit, il y a eu une interdiction totale d'allumer une lampe torche ou un téléphone en raison des risques d'être visé par un tireur embusqué.
Alors, le stress, pour vous dire la vérité, le stress est beaucoup plus important avant un départ en mission que lors d'une mission.
Pourquoi ?
Parce que y a toujours une appréhension avant de partir. Et je pense que c'est une appréhension normale, il faut l'avoir. Si on ne l'a pas, il faut au contraire se poser la question pourquoi on n'a pas peur d'y aller. Avoir un peu peur ou avoir peur, c'est normal. Être paniqué, c'est autre chose. Il ne faut pas être complètement sujet à la panique, mais avoir cette peur et ce stress qui monte avant une mission, c'est normal parce qu'à chaque fois, on va vers l'inconnu. Et c'est cet inconnu qui fait en sorte qu'il y ait cette crainte un peu permanente. Mais une fois qu'on est sur le terrain, je pense que la peur disparaît petit à petit et c'est plutôt un bon stress qui l'emporte. On est dans l'événement, on le vit et on vit les choses comme elles sont. On est là, on juge ce qu'il y a de bon à faire ou de moins bon à éviter. Et lorsqu'on y est, on y est.
Vous êtes parfois seul sur le terrain, mais parfois aussi avec un technicien de reportage ou un fixeur. Parlez-nous justement de leur rôle, des techniciens de reportage déjà.
Le rôle du technicien de reportage est essentiel à plus d'un titre. D'abord sur le côté technique, c'est vrai que aujourd'hui, en tant que journaliste radio, on est appelé à tout faire quelque part, autant tourner que monter, que mixer, qu'écrire, que transmettre. Mais par ailleurs, les missions en zone dangereuse sont des missions tellement compliquées et tellement lourdes à monter que le soutien et l'assistance quelque part du technicien de radio est primordial. Une mission sur un terrain comme celui-ci, ou d'ailleurs peut-être n'importe quelle autre mission radio, c'est parfois 20 heures, voire 22 heures de travail par jour. Véritablement, on finit de tourner ces éléments, de les monter, les mixer vers 1h, 2h du matin, de les envoyer à ce moment-là avant de reprendre l'antenne le lendemain matin à 6h, 7h ou 8h pour être en direct dans les journaux. Donc, c'est des missions très très compliquées et où il faut avoir l'assistance et le soutien technique de quelqu'un qui est un professionnel, d'une part. Donc, il y a tout l'aspect technique du technicien, mais il y a aussi l'aspect humain. C'est des missions tellement compliquées, tellement dangereuses qu'il faut être deux. Et d'ailleurs, on ne va jamais sur un terrain dangereux tout seul, parce que la pression est tellement forte qu'il faut pouvoir en discuter en permanence avec quelqu'un.
Et tous les deux avaient fait en amont un stage de préparation à ce genre de mission en zone dangereuse. Donc, et vous avez des mises à jour régulières pour justement apprendre à jauger.
c'est une formation qui est assez complète, qui gère à la fois le côté médical, apprendre à arrêter une hémorragie en zone de guerre, alors qu'une blessure de guerre peut être une blessure très très violente qui peut arracher un membre. Donc il y a tout le côté dans la formation sécurité.
Côté médical.
Côté médical. Donc il y a aussi tout le côté sécuritaire, informatique et communication. Donc c'est une formation qui est assez complète, qui est mise en place aujourd'hui et qui nous apprend tout ça, mais qui nous apprend aussi que chaque situation est différente et que cette formation n'est pas là pour nous apporter des réponses toutes faites quelque part.
Et qui mieux que les fixeurs pour connaître la zone sur laquelle vous vous rendez? Vous qui allez régulièrement depuis plusieurs années en zone syro-irakienne, y a-t-il des fixeurs avec lesquels vous travaillez régulièrement et avec lesquels vous avez noué un lien particulier?
Alors le fixeur est plus qu'essentiel sur une zone dangereuse. En zone irakienne, j'ai eu la chance de travailler avec un fixeur, surtout qui aujourd'hui, qui malheureusement a été tué lors des combats pour la libération de la bataille de Mossoul. C'est quelqu'un qui connaissait son métier, c'est quelqu'un qui connaissait son terrain, son pays. C'est quelqu'un qui a travaillé en tant que fixeur en Irak quasiment de 2003, de l'invasion américaine, jusqu'à 2017. Et puis, malheureusement, il nous a quittés en 2017 lors de cette bataille de Mossoul. Donc voilà, c'est des gens en qui il faut avoir confiance. Et c'est des gens qui nous guident dans notre travail de tous les jours. Il faut les écouter. Lorsqu'un fixeur dit « on n'y va pas », on n'y va pas. Il ne faut pas essayer de le... Et c'est ça, je crois, la force et ce qui fait un bon fixeur. C'est celui qui peut dire à son équipe de journalistes étrangers « aujourd'hui, c'est non ». Et lorsqu'un fixeur dit « c'est non », il ne faut pas chercher à faire autrement.
Merci beaucoup, Sami Borelifa.
Merci infiniment. Au revoir.
C'est bientôt la fin de cette émission, place à Mondoblog Audio. Le mondoblogueur haïtien Nixon Digassin a écrit un vibrant hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de RFI assassinés au Mali il y a 6 ans, jour pour jour. À travers eux, il s'adresse à tous les journalistes dont la mission d'information est difficile et parfois très risquée.
Je veux livrer ces quelques mots aux journalistes du monde entier qui sont victimes de menaces et à tous ceux qui ont été engloutis par la barbarie des livreurs de deuil. Journaliste, qu'as-tu fait de si grave pour mériter une telle fin? Quel crime as-tu commis pour être soumis à tant d'injustice et d'atrocité? Ton seul crime, c'est d'avoir été un journaliste impartial, un éclaireur. Ton péché impardonnable, c'est de t'être engagé à apporter à tes concitoyens, dans des conditions parfois très difficiles, des informations sur ce qu'il se passe dans tel ou tel pays. Ta bravoure, ta rectitude et ton refus de vendre ton âme t'ont disgracié aux yeux de ceux qui passent leur vie à essayer de cacher le soleil. Journaliste, tu as donné ton sang pour un monde plus juste. Mais malheureusement, l'impunité ne s'est pas arrêtée, car il continue à torturer et à tuer les journalistes. Mais par-delà de tous ces dangers de mort et des obstacles de toutes sortes, des jeunes prennent la relève. Il continue le travail, la noble mission d'informer. À tous les journalistes martyrs qui sont là-haut, à vous Ghislaine Dupont et à Claude Verlon, sachez que nous ne vous oublions pas. Ghislaine, Claude, nous ne vous oublions pas.
Mondoblog.org. C'était Nixon Digassin, il nous lisait un billet intitulé « Journaliste, qu'as-tu fait de si grave ?» que vous pouvez retrouver sur son blog « Mon pays à l'œil nu ». Rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver les productions de centaines de blogueurs francophones, un site qui vient tout juste de faire peau neuve et dont on est très fier. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site de l'UNESCO qui publie une carte des assassinats de journalistes dans le monde. Plus de 1000 journalistes ont été tués au cours de ces 12 dernières années. Si certains sont morts dans des zones de guerre, d'autres, la plupart en fait, ont été tués chez eux, au coin de leur rue, en bas de leur bureau, de sang-froid. Que ces crimes restent impunis et révoltants. C'est la fin de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Merci à Camille Deloche pour Mondoblog Audio, à Camille Sarrazin pour le coup de pouce pour traduire Lorenzo Tugnoli et évidemment à Simon De Creuse qui était à la réalisation. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera du livre Dans la tête de Mark Zuckerberg. Vous savez, le patron de Facebook. J'aurai le plaisir de recevoir son auteur, le journaliste Julien Lebotte, dans cette émission qu'il connaît bien, l'atelier des médias.
Les portraits de la bande passante.